Philippe, 18 mars 83.
La première approche, une question. La première approche de l'imagination semble devoir se faire par le biais de la connaissance sensible. Mais à partir de là, ne doit-on pas considérer la part propre et prépondérante du sujet, qui est la source de cette connaissance, en d'autres termes, son affectivité, faculté du sujet, en sorte que si l'imagination reste bien, formellement parlant, une connaissance, elle serait cependant une connaissance déterminée par l'affectivité sensible passionnelle. Cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas de connaissance sensible pure, mais que la connaissance sensible s'exerce soit dans la sphère de l'intelligence, l'art, les mathématiques, soit dans la sphère de la plus primitive et plus radicale de l'affectivité, laquelle rendrait compte, en dernière analyse, du devenir indéfini et anarchique de l'imagination. C'est bien évident que l'imagination est intermédiaire. Elle est un mouvement. Un mouvement. Un mouvement, c'est-à-dire une connaissance qui est un mouvement. Chose spéciale, ce qu'on avait dit. Une connaissance qui est un mouvement. Donc, terminus ad quo, comme toujours, hein, dans un mouvement, terminus ad quem. Donc, terminus ad quo, le point de départ. L'imagination part de la sensation. On s'introduit dans l'imagination et le sens commun est ici. C'est tout ce commun. L'imagination part de la sensation. L'imagination, c'est très vrai, l'aspect du sujet. J'allais dire, l'exercice premier, la chipnote première, hein, ça vient de la sensation. La sensation qui nous unit à la réalité physique. Contact direct avec le monde physique, la sensation. De la sensation va naître l'imagination, à travers le sens commun. Bon, l'imagination est un, très curieux, ce mouvement subjectif. Tout à fait d'accord, subjectif. Et je maintiendrai quand même connaissance. Je vois très bien la question. La faculté du sujet, c'est la volonté. La faculté du sujet, c'est l'affectivité. L'affectivité comme sujet. Toute affectivité est subjective. Bien que l'affectivité porte sur le bien sensible ou sur le bien spirituel. L'un ou l'autre. Ça porte sur le deux. Mais que la part affective soit très grande dans l'imagination. Et cette part affective, ce sont les passions. Je suis tout à fait d'accord. Et que même au niveau de l'exercice, on ne puisse plus distinguer. C'est pour ça que le psychisme, tel que les psychanalystes en parlent, tel que les psychologues en parlent, le psychisme est toujours le cocktail imagination, affectivité, passion. Toujours. C'est ça la zone psychique. Notre zone psychique est entre les deux. Alors, vous voyez, avec un enracinement vis-à-vis des instincts, parce que nos passions sont reliées à nos instincts. L'instinct, c'est l'affectivité radicale et naturelle. Donc, c'est lié, les passions ont quelque chose qui est lié aux instincts. Et puis, lié à l'affectivité spirituelle, la volonté, la volonté. Et donc, les passions, elles aussi, sont intermédiaires. Et la psychologie, on est radicale, c'est justement quand elle est enracinée dans l'instinct. Mais le psychisme, c'est l'imaginaire et les passions, c'est les deux. Alors, du côté de l'exercice, ça qui est intéressant à bien écrire. Du côté de l'exercice, ce que regardent toujours les psychologues, hein, l'analyse des psychologues est totalement différente de notre analyse philosophique. Ça, je crois que c'est très, très important de le comprendre. Puisque l'analyse des psychologues est une analyse descriptive au niveau de l'exercice. Ils n'analysent pas les principes. Donc, on ne voit que les lois. Ce qu'on sait au niveau psychologique, c'est les lois. Les lois dans l'ordre de l'exercice, c'est-à-dire ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. Ayant posé telle chose, il y aura telle autre chose. Et on essaie de saisir ces lois, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, des liens de nécessité à l'intérieur de cet exercice psychique. Et dans cet exercice psychique, on ne doit absolument pas distinguer l'imaginaire de la passion. Et je dirais qu'au niveau de l'exercice, tout imaginaire est enveloppé d'un aspect affectif passionnel. Toujours. Nous n'avons jamais un imaginaire pur. Jamais. Ça, tout à fait d'accord. Au niveau de l'exercice et au niveau descriptif. Votre imaginaire est toujours lié à l'état passionnel et la plupart du temps, si on ne fait pas grande attention, notre imaginaire est pour les passions. Il est polarisé par les passions et petit à petit par l'instinct. C'est normal. Parce que dans ce domaine-là, vous comprenez que l'instinct est l'aspect radical, l'aspect le plus naturel. C'est l'appétit naturel. Donc c'est le poids le plus grand. Et donc si on ne fait pas attention, ce seront les oignons d'Égypte qui reviendront sous des formes très différentes, la même pose, ce sont toutes ces choses-là, et ce seront toutes les choses qui reviendront, mêleront dans cette casserole du psychisme qui est profonde, du reste, hein, c'est la soupe de la semaine. Un peu amère, un peu fermentée, c'est la soupe de. Alors, c'est l'imaginaire pour trouver tout d'un coup un peu de poisson, un truc de chose. Voilà, c'est l'imaginaire. C'est exactement ça. Hein, c'est amusant parce que c'est intéressant à voir ça, c'est au fond cette espèce de lac profond, n'est-ce pas, dans lequel vous retrouvez l'imaginaire toujours en mouvement, l'aspect affectif et passionnel tout le temps dedans, et puis de temps en temps, alors vous touchez le fond de l'instinct qui pousse, avec une force énorme. Bon, alors du côté de l'exercice, parce que c'est intéressant. Si on faisait un cours de psychologie ici, on en prend peut-être un. Mais un cours de psychologie uniquement pour qu'on comprenne mieux ce que c'est. Ça n'apporte pas grand-chose, la psychologie, au point de vue intelligence de choses. Mais ça apporte des quantités d'expériences. Il faut lire un peu de Freud, surtout au début. Il faut lire un peu de Jung. Pas trop, mais un peu. Regardez, on va lire un peu. C'est intéressant de voir ça. Les diverses expériences qu'on peut voir. Il faut de temps en temps lire un livre de psychologie Dumas, parce que c'est tout à fait le début. Alors, c'est intéressant de voir ça, on avait tous lu Paul Bachot. Quoi. Vous savez, c'est descriptif, alors c'est infini. C'est infini. C'est une matière infinie, vous êtes dans l'exercice. Et vous analysez autant que possible les lois de cet exercice. Alors les grandes lois, c'est le concupiscible, et les racines. Et vous avez ça. La grande loi du concupiscible. Vous comprenez que si le concupiscible, hein, si vous retirez au concupiscible son bien, qu'est-ce qu'il fait ? La vengeance des racines. C'est vrai. Vous retirez au chat la petite souris pendant que le chat est en train de grignoter. Vous la retirez. Qu'est-ce que vous recevez ? Coup de patte. C'est bien évident. Vous retirez au chien son os. Ben vous verrez. Il faut faire attention. Et ainsi de suite. Vous retirez à l'homme ce qu'il est en train de manger. S'il peut, il vous rattrapera. d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est l'irascible. C'est le balancement des deux. Le concupiscible et l'irascible. Alors, le concupiscible, il est pris dans l'état de l'irrigation. Et l'irascible est là pour venger. Tout le temps. Et c'est pour ça qu'au fond, c'est très simple, les lois psychologiques, vous savez. C'est très embrouillé parce que c'est très complexe. Mais au fond, il n'y a que quelques grandes lois psychologiques qu'on retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la psychanalyse, c'est d'une simplicité invraisemblable, une fois qu'on a compris ça. C'est d'une simplicité extraordinaire. Les cas sont très multiples, mais vous retrouverez tout le temps ça. Et c'est pour ça que le sevrage est si important, parce que qu'est-ce que c'est que le sevrage ? Donc vous retirez le bien, alors il y a l'irascible. Et vous comprenez très bien comment le père devient l'homme le plus désagréable qui soit, puisque l'enfant était bien avec sa mère. Et le père arrive, eh viens quoi, couche-le, il est temps. Alors immédiatement, venez, le père, c'est celui qui trouble la délectation de l'enfant. On était si bien à deux. Je voulais un troisième. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient vraiment de façon tout à fait maladroite. Et au fond, c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que les situations à trois sont toujours très pénibles psychologiquement. Parce qu'il y a un petit schéma concupiscible et irascible. Vous voyez, c'est les situations à trois. Les situations à deux, c'est le développement du concupiscible. C'est merveilleux. On a tout son temps. Mais le troisième, alors, va le faire pointer de l'irascible. Et c'est très simple une fois qu'on a compris l'histoire. Hein, concupiscible et irascible. Et on est en exercice. Et on cherche les lois d'avoir pas lieu de ce qui viendra ensuite. On prend ce point de vue-là. Et c'est l'exercice. Et l'exercice du psychisme, c'est dû de l'imaginaire lié au passionnel. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ça, c'est le réel intentionnel. On est ici dans l'intentionnalité. Donc une souplesse, une intentionnalité sensible. Une intentionnalité affective et de connaissance. Les deux sont liés. Le philosophe, lui, au contraire, il essaie d'étudier dans une analyse les niveaux différents. C'est la préoccupation d'Aristote, les différents niveaux de vie. Il y a un premier niveau de vie, la vie végétative. La vie végétative, pour nous, n'est jamais vécue en dehors de la passion. La vie végétative chez nous n'est jamais vécue en dehors de l'aspect imaginatif, c'est bien évident. On peut étudier la vie sensible. Et on étudie dans la vie sensible les différents aspects de la vie sensible. C'est une analyse qui se fait par le point de vue des causes formelles. J'ai le droit de le faire, hein. Personne ne peut m'empêcher de le faire, même si le psychologue dit que ça ne sert à rien. C'est une connaissance spéculative. Alors que la connaissance psychique n'est pas une connaissance spéculative. C'est une certaine science des lois humaines. Alors c'est entre les deux. C'est ni spéculatif ni pratique. Parce que la psychologie n'est pas pratique. Hein. Dites pas ça, c'est pas du tout la réalité. La réalité c'est autre chose, c'est une abstraction, donc c'est pas le réel. C'est une abstraction qu'on fait pour étudier les lois psychiques. Comme on étudiera les lois psychologiques et les lois sociologiques. Hein. C'est quelque chose d'abstrait. Donc, c'est à la fois abstrait et c'est en même temps pratique. C'est une matière pratique. Alors, au niveau philosophique, j'analyse. J'ai analysé la sensation. Et j'ai vu que dans la sensation, il y avait quelque chose de particulier à cause, justement, de la cause formelle, ce qui spécifie. Et je dis que ce qui spécifie, c'est le sensible propre. Et je vois les cinq sens à partir de là. Oui. Et c'est pour ça qu'au fond, au point de vue philosophique, on ne distingue pas le point de vue du toucher intérieur et toucher extérieur. Alors que psychiquement, on fait la distinction. Pas au niveau philosophique, c'est pas la peine, c'est le même objet. Je vois un autre niveau de connaissance à partir des sensibles propres. Je vois leur diversité et leur unité. Le problème de la diversité et le problème de l'unité, c'est le problème du sens commun. Donc, premier nœud, le sens commun. Et je veux dire, oui, c'est le sens communis, le sens commun qui fait le premier nœud. Puis, je vois ensuite un nouveau type de connaissance. qui existe dans les rêves, qui existe quand, étant en contact avec la réalité, je ferme les yeux et je me représente. Je suis donc en face d'un type de connaissance distinct de la sensation, la représentation. Et la représentation prise pour elle-même, indépendamment de la signification qui sera un étage supérieur. Qu'est-ce que c'est que la représentation? Et alors c'est là où j'étudie ce que c'est que l'imagination. Cette connaissance de l'imagination. En disant, vous voyez, je suis parti d'une expérience que j'ai. J'ai l'expérience de rêve. J'ai l'expérience, quand je ferme les yeux, que je peux me représenter. Je peux me représenter ce que j'ai vu. Et que cette représentation que j'ai vue dépend de la sensation, mais elle est autre. Je n'identifie pas les deux, puisque la sensation peut cesser et la représentation continue. La représentation était peut-être présente dans la sensation, et quand je suis très pris par la sensation, la représentation disparaît. Du moins, elle est uniquement dans le fond. Voyez, méthode Vitose. Refaites vivre les sensations pour que la représentation soit plus première. Alors que dans la vie courante, étant donné que notre imagination est en vadrouille, eh bien nous nous laissons prendre et la représentation est première et nos sensations risquent de ne plus avoir leur caractère propre. Oui. Donc la méthode Vitose veut remettre en lumière les diverses sensations. Et je veux avoir le contact de ces diverses sensations pour que la sensation reprenne sa place de source. Étant donné que le contact avec le réel est toujours un élément de jeunesse, ça me rajeunit. Si je n'ai plus le contact avec le réel, je deviens un petit vieux, très vite. Un petit vieux dans l'imagination. Il y a quelque chose qui ne se fait plus. Alors, vous voyez bien, je suis en présence d'une image, au-dedans de moi-même. Quelque chose qui implique une représentation. Ce n'est pas une sensation, c'est un nouveau type de connaissance. Et cette connaissance, pourtant, n'est pas la connaissance intellectuelle qui implique une signification. Je suis donc en face d'une connaissance d'un type particulier que je vais essayer d'analyser. Et j'analyse cela, connaissant très bien que dans le contexte concret, mon imagination et mes passions sont tout le temps liées. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, je vais essayer de regarder ce que représente ce domaine d'une connaissance qui implique une représentation. C'est-à-dire, je réfléchis sur cette connaissance qui n'est plus la sensation, qui n'est pas encore la connaissance intellectuelle, quelque chose que je me représente. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance de la représentation ? Je dis que cette connaissance de la représentation dépend des sensations, ça c'est sûr. Puisqu'il y a des représentations qui sont plus du côté visuel, des représentations qui sont plus du côté auditif, d'autres qui sont plus tactiles, et ainsi de suite. Les rêves que j'ai sont reliés à des couleurs, sont reliés à des sons, sont reliés à des touchés. Ça, c'est vrai, je constate. Donc je vois que cette connaissance représentative prend sa source dans les sensations. Mais que cette connaissance imaginative, que cette connaissance représentative, disons, a une souplesse que n'a pas la sensation. Une mobilité que n'a pas la sensation. Je peux très bien faire des liens tout à fait nouveaux de divers aspects. Qui ne sont plus les sensations, mais qui sont quelque chose que je porte en moi. C'est pour la mobilité des rêves. La mobilité du rêve éveillé quand vous êtes distrait. Ça, la distraction. Ne cherchez pas à avoir des distractions, ce n'est pas la peine. C'est pas, mais vous savez bien, il y a des distractions. Et vous n'allez pas me dire que pendant les distractions, vous pensez beaucoup. Non, non, non. Vous êtes emporté vers quelque chose, puis tout d'un coup dire, où est-ce que je suis? Il y a quelque chose de particulier. Ah, c'est la fin du cours. Bon, c'est très bien. Alors, vous revenez au réel. Non, revenez, j'étais distrait. Dans les méditations le matin, l'heure d'oraison. C'est très connu, ça passe beaucoup plus vite. Ça passe très très vite. Vous comprendrez, quand vous voulez vraiment être présent à Dieu, c'est dur, je ne sais pas comment. Moi, je lutte, d'un coup. Ça a monté très haut, du moins très haut, dans l'ordre imaginatif. Ça a monté très haut et puis ça arrive au terme. Bon. Le tout, c'est de retomber sur ses pattes. Hein. Bien. Alors, vous avez la représentation. Ce domaine très curieux qui est un domaine mobile. Un domaine mobile. Alors, je vois le point de départ, je ne vois pas le terme. Il n'y a pas de terme. C'est un domaine sans terme. Et c'est un domaine où, de fait, je vois bien que cette connaissance de cette image, de ces représentations, c'est quelque chose qui ne repose pas directement sur la réalité, mais qui repose sur le sujet connaissant, qui fait lui-même sa propre synthèse. Que c'est un domaine, je dis bien, domaine des représentations, domaine des images. Domaine fluent. Alors je dis, ce domaine prend sa source dans le sujet connaissant, mais le sujet connaissant au niveau sensible. Qu'à ce moment-là, cette source soit toujours plus ou moins liée à l'affectivité passionnelle, c'est sûr. Mais je dirais qu'il y a deux subjectivités. Il y a une subjectivité du côté de la connaissance et une subjectivité du côté affectif. Et je peux faire la distinction entre les deux, dans l'analyse philosophique, pas au niveau psychologique. Mais au niveau analyse philosophique, je peux faire. Pourquoi ? Parce que le domaine de la représentation est un domaine de connaissance. C'est un type de connaissance particulier. Donc, il faut saisir la source de cette connaissance. Et la source de cette connaissance n'est plus l'objet, je suis coupé. La sensation est passée. Ma représentation se développe indépendamment. Et donc, la source de cette représentation, de cette image, vient du sujet. Formellement, elle vient du sujet. Du sujet imaginant. Elle ne vient pas de la sensation. Donc, je peux dire que c'est vraiment le sujet connaissant, mais au niveau de la connaissance sensible, qui est source de ce que représentent ces imaginations. Alors je commence à comprendre, puisque justement c'est le sujet qui est source, et que le sujet au point de vue imaginatif, il n'a pas de limite. Je peux imaginer telle chose après telle autre. Je dis, c'est un rassemblement d'un tas de choses multiples et diverses. Pour chaque élément, je peux très bien, si j'analyse, pour chaque élément, je verrai, oui, il y a bien, oui, il y a une source, oui, c'est comme la soupe. La fin de la semaine, chaque élément, mais la synthèse est particulière. On n'aurait pas pu la faire au début de la semaine. Donc elle est particulière. Et la synthèse de la représentation est unique. Et c'est le sujet connaissant qui fait cette synthèse. C'est vrai, c'est le sujet connaissant qui fait cette synthèse. C'est pas autrement. Et dans cette synthèse, il peut en faire de multiples. Il n'y a pas de limite. Parce qu'il n'y a plus d'objet. C'est une connaissance subjective. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a que des restes. Les miettes. Il n'y a que des restes. Toutes les miettes que j'ai connues par les sensations. Mais je les rassemble dans une représentation. Et je suis donc en face d'un type de connaissance particulier qui est la connaissance imaginative qui me donne une représentation. Et qui est une connaissance, alors, pour revenir à la définition d'Aristote, qui est une connaissance qui se fait dans le mouvement. À partir des sensations, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Alors, je peux étudier qu'est-ce que c'est que cette représentation pour aller plus loin. Je vois que dans la représentation, les sensibles communs passent avant les sensibles propres. Et c'est ça qui donne toute la souplesse à l'image. Ce n'est pas un reflet de la réalité, c'est une nouvelle construction. C'est une construction que je fais et qui est possible grâce aux sensibles communs. Si les sensibles propres étaient premiers, il n'y aurait pas cette construction, puisque les sensibles propres relèvent de quelque chose d'indivisible. Tandis qu'au contraire, les sensibles communs relèvent du divisible. Alors, parce qu'ils relèvent du divisible, je commence à comprendre comment, en effet, au niveau de l'image et au niveau de la représentation, il peut y avoir quelque chose d'infini. Je suis dans le domaine de la quantité, puisque c'est le domaine des sensibles propres. Alors, c'est une connaissance quantitative. La connaissance imaginative est toujours quantitative. C'est pour ça qu'on peut en accumuler indéfiniment. Mais c'est une connaissance. Ce n'est pas seulement une affectivité. C'est une connaissance en elle-même. Que dans son exercice soit toujours lié à l'état passionnel, d'accord. Que l'état passionnel vienne permettre des synthèses différentes, d'accord. Tout à fait. Et que donc les images et les représentations que nous nous faisons soit comme le miroir de notre vie affective, d'accord. Mais en comprenant bien que c'est un miroir qui implique que nous pensions, que nous transformions tout ça. Pas du tout, hein, il faut bien comprendre. C'est pas du tout un miroir, un reflet de notre vie affective. Notre vie affective est transformée par le domaine de l'imagination. Mon imagination transforme ma vie affective. Et donc, c'est là où la très grosse difficulté, vous voyez, d'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, c'est le domaine affectif, c'est le domaine imaginatif. L'interprétation des rêves est très très délicate, parce qu'elle implique tout un contexte affectif, c'est très vrai. Mais est-ce que c'est juste de prendre cette démarcation aussi nette que la prend Freud? Quand je suis conscient, c'est le domaine du devoir. Quand je suis inconscient, c'est le domaine du plaisir. Alors, vous voyez, la nuit, c'est le domaine du plaisir. La journée, c'est le domaine du devoir. Et là, on comprend très bien comment, à partir de... Ça, c'est un a priori. C'est pas du tout un principe, c'est un a priori. C'est un aspect dialectique, d'opposition entre le plaisir et le devoir. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition entre le plaisir et le devoir, quand on est vertueux, il y a la synthèse. Il n'y a rien qui est plus agréable pour moi que de travailler. C'est merveilleux. Il faut toujours que vous êtes vertueux, ça. Rien de plus agréable pour moi que d'obéir. C'est merveilleux, vous êtes vertueux. Vous avez la vertu d'obéissance. Alors à ce moment-là, vous rejoignez devoir et joie. C'est ça la vertu. Alors Freud sépare dialectiquement les deux. Alors qu'il n'y a pas d'opposition. Évidemment, Freud n'a pas beaucoup rencontré de saints et d'hommes vertueux. Toute la question est là. Il est parti à partir de son expérience, il aurait dû dire, j'ai l'expérience de malade. Et parce que j'ai l'expérience de malade, je ne peux pas construire ce que c'est que l'homme. À partir de l'imparfait, je ne peux pas remonter au parfait. Il a cru qu'à partir de l'imparfait, je pouvais construire l'homme. Il a construit l'homme à partir d'une expérience de malade. Et l'expérience de malade ne vous conduit jamais à l'expérience de l'homme. Parce que l'expérience de l'homme vous donne le sens d'une finalité. Le malade, c'est celui qui a perdu sa finalité et qui vit dans le rêve. Il vit dans le rêve, il brille dans l'imaginaire. Alors, parce qu'il vit dans le rêve et que l'imaginaire, vous ne retrouverez jamais la finalité dans une perspective de malade. Dans l'imaginaire, vous ne trouvez pas la finalité. Impossible. Dans le psychisme, vous ne retrouverez jamais la finalité. Impossible. Parce que la finalité est du côté de l'esprit. Alors, si vous vous plongez dans l'imaginaire, vous ne le trouverez jamais. Et alors, l'imaginaire, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que l'imaginaire est source de synthèse dialectique. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la dialectique commence par l'imaginaire. Et pourquoi l'imaginaire est source de connaissances dialectiques? Parce que justement, l'imaginaire, c'est un mouvement à partir des sensibles communs. Et ce point de vue des sensibles communs, c'est justement le divisible qui n'est pas directement lié au réel. Et donc, je peux lier comme je veux. Je peux diviser comme je veux. Je le divise exprès pour mieux comprendre les synthèses. C'est cruel, ça. Car là, quelque chose d'intéressant à regarder dans l'ordre de l'imaginaire, pourquoi il y a ce besoin de synthèse. Je crois que ça, c'est propre du sujet. Parce que le sujet ramène tout à lui, forcément. Alors, c'est la connaissance subjective qui ramène tout à elle. Et alors, on est donc en présence d'un type de connaissance irréductible aux sensations et irréductible à la connaissance intellectuelle. Je suis en présence d'un domaine qui se développe, j'allais presque dire, pour lui-même. C'est le propre de l'imaginaire. Et c'est le cancer de la vie intellectuelle. Parce que ça se développe, ça se prolifère dans tous les sens. En attendant d'être le cancer biologique. Vous voyez ? Et c'est d'abord le cancer au niveau psychique. Parce que ça enlève, vous voyez, toute la structure. La structure est ou la sensation, ou le domaine proprement intellectuel. Et si cet entre-deux prend tout, parce que ça enlève, vous voyez, toute la structure. La structure est ou la sensation, ou le domaine proprement intellectuel. Et si cet entre-deux prend tout, eh bien oui, il est anarchique. Donc il est cancéreux. Au point de vue humain. Parce qu'il est anarchique. Il part dans tous les sens. Il n'a pas en lui-même son harmonie. Il n'y a pas d'harmonie en lui-même. Mais l'imaginaire, c'est le tremplin du cancer, hein, à ce point de vue-là. Parce que ça conduit, et ça surmonte, un monde qui est de plus en plus un monde imaginaire, est un monde qui est bon pour le cancer. Vous n'avez plus votre rectification pour vous-même. Vous voyez ? Donc, on devrait pouvoir dire que la méthode Vitos serait merveilleux comme réclame, vous voyez ? Guérit les cancers. Hein ? Vous met dans un état de disposition qui vous fortifie contre les cancers. Ce que je crois, parce que je suis persuadé que si ma connaissance demeure réaliste, je suis beaucoup plus. Je ne dis pas que ça supprime tous les cancers, hein. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que s'il a un cancer, ça prouve qu'il a vécu dans l'imaginaire. Non, pas nécessairement lui, n'est-ce pas ? Mais le contexte dans lequel ça s'est réalisé. Il y a sûrement dans la connaissance réaliste une force qui vient de la connaissance, du reste, qui permet de lutter contre l'imaginaire. Parce que l'imaginaire désagrège. Alors si ça désagrège, évidemment, ça désagrège au niveau de la connaissance et au niveau affectif. Donc voyez comment, par rapport, je relis si vous voulez la question maintenant, j'espère que vous allez voir, c'est, je crois, très vrai ce qui est dit ici au niveau psychologique. C'est très vrai. Au niveau de l'analyse philosophique, attention, l'imaginaire a un domaine propre. Au niveau philosophique, au niveau de l'analyse philosophique, l'imaginaire représente une zone particulière de connaissance. Mais cette zone particulière de connaissance, de fait, dans notre vie, elle est toujours liée au point de vue passionnel. Donc la première approche de l'imagination semble devoir se faire par le biais de la connaissance sensible, la sensation. Mais à partir de là, ne doit-on pas considérer la part propre et prépondérante du sujet qui est la source de cette connaissance ? D'accord. En d'autres termes, son affectivité, non. Pas immédiatement. Parce qu'il y a une source subjective de connaissance qui existe. Ma connaissance, la connaissance subjective n'est pas uniquement, je veux dire, l'aspect subjectif n'est pas seulement affectif. C'est très vrai que la volonté, c'est la faculté du sujet. Les passions ne sont pas la faculté du sujet. En sorte que si l'imagination reste bien, formellement parlant, une connaissance, c'est très vrai, formellement parlant. Or, c'est ça que je regarde dans l'analyse. Dans l'analyse de l'imaginaire, je regarde la connaissance de l'imaginaire comme connaissance, comme type particulier de connaissance. Elle serait cependant une connaissance déterminée par l'affectivité sensible passionnelle, pas directement. Il y a une détermination de l'imaginaire qui est une détermination en elle-même, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas immédiatement l'affectivité passionnelle. Que l'affectivité passionnelle se greffe là-dessus, oui, et pas immédiatement. Cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas de connaissance sensible pure. Alors, tout dépend. Si vous regardez d'un point de vue d'un point de vue psychologique, tout à fait d'accord avec vous. Si vous regardez d'un point de vue de l'analyse, je dédierai mot, la sensation est une connaissance pure, sensible. L'imaginaire, c'est une connaissance seconde. C'est une connaissance sensible, seconde. Et parce qu'elle est seconde, elle n'est jamais pure. Ce qui est second n'est jamais pur, hein, vous le savez bien, ça. C'est le premier jaillissement qui est pur. Hein. Et donc la seule connaissance sensible pure, c'est la sensation. Mais que la connaissance sensible s'exerce soit dans la sphère de l'intelligence, au point de vue de l'exercice, je suis tout à fait d'accord, l'art, les mathématiques, soit dans la sphère plus primitive et radicale de l'affectivité, laquelle rendrait compte en dernière analyse du devenir indéfini et anarchique de l'imagination. En définitive, c'est évident, je dis en définitive. En définitive, c'est sûr que c'est l'affectivité qui rend compte de cette agitation permanente. Au fond, si je suis agité, c'est toujours un peu l'affectivité. L'affectivité, vous voyez, c'est vrai que la passion me rend fébrile. Et la fébrilité passionnelle, vous voyez, va se servir de l'imagination pour décupler cette agitation. La connaissance sensible et la connaissance imaginative est une connaissance qui se fait dans le mouvement. Et c'est pour ça, vous voyez, il y aura la tentation de bouger tout le temps pour renouveler mon imagination. Les voyages forment la jeunesse. Alors je désire tout le temps bouger pour former mon imagination. Je ne le dis pas, mais je n'arrive plus à tenir sur place, hein, comme on dit, hein, un gosse qui tient plus sur place. Quand il y a de l'électricité dans l'air, hein, je ne tient plus sur place, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas suffisamment trouvé le réel, la finalité. Alors il s'agit d'une agitation fébrile, passionnelle. Ça peut être passionnel, ça peut être imaginatif, les deux. Il se renvoie la balle, c'est très curieux. C'est très difficile de savoir qui est le premier. Parce que le point de vue de l'imagination, c'est un mouvement. Et donc c'est une agitation. Psychologiquement parlant. C'est un mouvement de connaissance. C'est une connaissance qui est un mouvement. Donc c'est une agitation. Et alors, est-ce que ce qui est premier dans l'agitation, est-ce l'imagination? Est-ce la passion? Je dirais c'est réciproque. Je ne crois pas que je puisse mettre un ordre. Je ne crois pas qu'on puisse mettre un ordre. Je crois que ça se renvoie la balle. Vous voyez, un mur après avoir un autre mur. Ça se renvoie la balle. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, c'est si difficile d'en sortir. Parce qu'on est dans un terrain miné. Hein. Le terrain n'est pas miné quand je rejoins le réel. Mais comme je suis coupé du réel, et que je veux me couper du réel, parce que l'imaginatif engendre l'imaginatif. Alors comme je suis coupé du réel, je ne trouve plus de roc. Je ne trouve plus la possibilité de m'arrêter. Le réel me fait m'arrêter. Mais l'imaginatif comme tel ne me fait pas m'arrêter, parce que c'est un mouvement. Oui ?
C'est le conditionnement qui nous fait l'emporte.
Ah oui, tout à fait. C'est le conditionnement, un conditionnement vécu. Vous voyez ? Un conditionnement vécu pour lui-même. Vécu imaginativement, vécu passionnellement. Vécu affectivement, vécu dans la connaissance. Et les deux sont impliqués l'un dans l'autre dans l'exercice. C'est très difficile. Je crois qu'on peut toujours dire, alors là c'est un principe universel, mais c'est pas plus. On peut toujours dire que la connaissance est première. Oui. Ben alors je fais appel à un grand principe, vous voyez, dans un domaine où essentiellement on est dans l'agitation. Mais je peux dire que la connaissance est toujours première. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Parce que la connaissance est toujours première. Donc, il semblerait que la première agitation est imaginative. Et ça serait intéressant, parce que ça donnerait un argument de plus pour la méthode Vickers. Oui, parce que je fais la propagande. Hein. Alors, c'est un argument de plus. Un argument de plus. Parce que si vraiment la première source d'imagination, c'est l'imagination, il faut corriger la connaissance. Et alors, d'autre part, c'est que c'est beaucoup plus facile de corriger la connaissance que de corriger l'affectif. Allez-y de corriger le passionnel, hein, pas comme du tout. Parce que si vous le sevrez, il sera encore plus terrible. Il va se jeter dessus, il aura des tendres mauvaises. Alors vous n'allez pas le sevrer, donnez-lui la sucette, ça ira mieux. Alors, cette année, il ne va pas le sevrer, le passionnel. C'est très vrai, le passionnel, c'est très difficile. Vous n'avez pas de méthode directe. Tandis que par l'imagination, par le point de vue sensation, ah, vous pouvez retrouver. Oui.
Est-ce que, par exemple, vous luttez contre l'emprise de l'imagination, le sport dans la mesure où c'est un moyen de s'affronter à la théâtre, à la théâtre, est-ce que c'est possible
faire la cuisine méthode... aussi, hein. Tout art, tout art, tout travail manuel, appliqué, et si on a des habitus intellectuels, le travail intellectuel. Mais je vous dis, si on a des habitus, hein, parce que si on n'a pas d'habitus, non. Mais quelqu'un qui a des dispositions, point de vue par exemple, qui a l'habitus historique, dans la mesure où il y a un habitus historique, alors, il est pris par le point de vue passionnel, l'agitation. Il se remet dans ses bouquins. Je voyais le père Delos pendant la guerre, je me souviens très bien, parce que c'était pareil, il était agité. Parce que, vous voyez, il était de droit international. Alors il m'a dit, mon objet est perdu. Une fois encore disant ça, dans la bibliothèque des Dominicains de Toulouse, je le rencontre. Il dit, ah, vous au moins, vous gardez encore votre objet. Oui, au point de vue de la métaphysique, c'est sûr, heureusement. Vous l'avez perdu? Oui, je l'ai perdu. Faire un droit dans ces époques, au moment de la guerre, au moment de la débâcle, comment voulez-vous? Difficile. C'est très vrai. Mais l'historien trouve encore. Parce que le passé, il reste le passé. Et alors, le point de vue de l'intelligence, l'application de l'intelligence, au fond, toute application volontaire. Alors le sport, dans la mesure où vous êtes sportif, mais quelqu'un qui n'est pas sportif, ça lui ferait rien du tout. Ah, si vous êtes sportif, très bien, vous avez quand même une disposition. Mais quelqu'un qui n'est pas sportif du tout, vous envoyez quelqu'un qui n'est pas du tout disposé au sport, allez vous détendre, faire du sport, mais il s'embêtera comme tout. Et l'imaginatif sera encore plus grand après. C'est très vrai, c'est très faux de dire ça. C'est comme votre travail manuel. Un travail manuel pour quelqu'un qui a des capacités, ça peut le détendre. Mais quelqu'un qui n'en a aucune, mais ce sera très très mauvais. Il s'ennuiera comme tout, il ira une heure, oui, putain, très bien. Puis vous, il s'ennuiera. C'est là où c'est très important, vous voyez, ça c'est très important au point de vue hygiénique, d'avoir toujours un violon d'ingres. Que ce soit le sport, ça, l'inconvénient, c'est qu'il y a des limites d'âge. Oui, parce que quand vous voyez le petit vieux faire du sport avec sa petite culotte, hein, c'est plus difficile. Hein. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que il y a des limites d'âge, que voulez-vous, au sport. On ne veut pas. On est toujours jeune. Ben oui, par l'esprit, mais pas par votre corps. C'est impossible. Alors, il y a des limites d'âge, ça, c'est évident. C'est pour ça que le sport, très bien quand on est jeune, un certain temps. Puis après, ben, soyez raisonnable, dites, mais non, je suis passé l'âge du sport. Et au fond, très souvent, c'est faux, c'est pas ça qui détend. C'est un vieux rêve qui reste, une réminiscence. Il y a un moment où j'ai été jeune et je faisais du sport pour me détendre. Continuons. Alors on continue, réminiscence. Mais ça ne signifie rien du tout. Oui, alors... Vous voyez, il y a le sport pour quelqu'un qui a cette disposition. Quelqu'un qui a un certain habitus d'art dans un domaine de telle ou telle chose, sculpture, ça le détendra. Mais s'il n'a pas cette disposition, non. C'est pas au moment où on est agité où on acquiert les dispositions. Au moment où on est agité. Alors attendez avant de vous en servir. Il faut attendre que ça se repose un tout petit peu. Alors à ce moment-là, vous prenez les choses ordinaires, habituelles, la promenade, vous détendre un peu, le contact avec tel ou tel qui vous aide parce qu'il pacifie, le petit chien à côté de vous, le petit chat, c'est exactement ça. Alors dans la vie religieuse, c'est un peu plus difficile parce que vous voyez, 70 chats dans cette communauté, n'est-ce pas, ça ferait quand même quelque chose, hein, le miaulement le matin, vous voyez ça, ou 70 chiens, parce qu'il y aurait ceux du chien, ceux du chat, n'est-ce pas, et puis le matin c'est le chat, le soir c'est le chien, alors il faudrait les deux, vous voyez, alors, ça ne va pas non plus, c'est pas possible ça. Donc, on fait, vous voyez, le sevrage du chien et du chat, ça peut être dramatique. Des gens qui sont habitués à vivre dramatique, un empêchement majeur de ne pas entrer dans la vie religieuse, parce que j'ai toujours vécu avec un chat. Vous savez, c'est arrivé, je ne raconte pas des histoires. Hein. Cette bonne carmélite qui était habituée à vivre toujours avec son chien, qui était une lévrette pure race, pur sang, quelque chose d'extraordinaire. Alors elle est entrée avec sa lévrette. Quand vous voulez à tout prix qu'elle entre, ben, t'as bien. Elle a été tout le temps là. Ça veut dire de plus. Mais c'était quelque chose de merveilleux. Évidemment, la visite canonique a fait que ça devenait un peu plus grave. Hein. Parce qu'il y a eu forcément des réclamations. Vous voyez, ça ne peut pas être autrement. La prieure pouvait. Hein. Ça veut dire, je suis tout puissant, mais il y a une autorité au-dessus. Et les visites canoniques qui peuvent se faire, elle aurait pénétré dans la clôture. Ça ne va pas. Et ça, c'est pour vous montrer que le retour au réel se fait de mille façons. Le retour au réel se fait de mille façons. Même celui-là.